Alexandre Dumas, Filles, Lorettes et Courtisanes. Troisième partie, Courtisanes. Tout au contraire de la Lorette, qui date d'hier, la courtisane remonte à la plus haute antiquité. L'Inde, cet aïeul des nations, avait ses courtisanes, qui, loin d'être comme les nôtres vouées à l'ignominie, sont presque toujours désignées dans les anciens auteurs sous le nom de servantes des dieux. Ces courtisanes étaient presque toutes des danseuses, qui, au contraire des autres femmes hindoues, lesquelles vivaient dans la plus profonde ignorance, apprenaient à lire, à écrire, à chanter et à jouer de plusieurs instruments. Aussi étaient-elles de toutes les fêtes civiles et religieuses, ce qui les mettait en grand honneur parmi le peuple et fort à la mode parmi les seigneurs. On retrouve encore aujourd'hui quelque chose de ces courtisanes chez les bayadères. L'Égypte, cette fille mystérieuse de l'Inde, eut aussi ses courtisanes. Mais nous avons peu de détails sur elle. Une pyramide a cependant consacré le souvenir de la plus fameuse de ses prostituées, mais la montagne de granit qui recouvre ses ossements ne nous a rien raconté de positif sur la vie de celle qui l'éleva. Est-ce la fille du roi Khéops? Est-ce la femme du pharaon Amasis? J'aime mieux pour mon compte que ce soit la femme du pharaon. La fable est plus gracieuse. Un jour, Rhodope, la plus belle courtisane de Thèbes, se baignait dans le Nil sur les rives duquel elle avait déposé ses vêtements. Un aigle passe, s'abat sur sa pantoufle, l'enlève dans ses serres et, en passant au-dessus de Memphis, la laisse tomber aux pieds du pharaon Amasis, qui rendait la justice au peuple assemblé. Le pharaon adorait les petits pieds, et la pantoufle était si mignonne qu'il remit à huitaine la cause commencée et fut, à l'instant même, publié par tout son royaume que la propriétaire de la miraculeuse pantoufle eut à se faire connaître. Le bruit de cette publication parvint jusqu'à Rhodope, qui, ayant reconnu sa pantoufle au signalement que le crieur en avait donné, partit pour Memphis et se présenta devant le pharaon, un pied chaussé et l'autre nu. Si la pantoufle seule avait tourné la tête d'Amasis, ce fut bien autre chose quand il vit le pied. Mais, soit caprice, soit calcul, Rhodope, qui avait si souvent fait le bonheur des sujets, refusa de faire celui du souverain si ce souverain ne la prenait point pour femme. Amasis, qui était amoureux, en passa par tout ce que voulut Rhodope, et la courtisane, devenue reine, consacra la fortune qu'elle avait acquise en exerçant son premier métier à élever une pyramide. Cette pyramide, dont chaque pierre est le prix d'une caresse, a 700 pieds de largeur sur 350 de haut. Qui se serait douté que le comte de Cendrillon remontait à l'histoire du pharaon Amasis ? Passons de l'Égypte à la Grèce, et de Thèbes et Memphis à Athènes et Corinthe. Là, les documents ne nous manqueront point. La Grèce était et devait être le pays des courtisanes. Sa religion, qui n'était que la matière poétisée, était une religion toute de volupté. Le plaisir était non seulement un besoin de l'organisation des Grecs, mais encore un des mobiles de leurs grandes actions, un des éléments de leurs meilleures lois. Ce fut Solon qui, pour combattre un crime par un vice, établit à Athènes les courtisanes. Il y avait à Abydos un temple à Vénus Facile. Cotina, prêtresse de l'amour, avait une statue à Sparte. Un très grand nombre de comédies antiques portaient pour titre des noms de courtisanes. Il y avait la Coriano de Phérécrate, l'Anté de Philénéus, la Thaletta de Dioclès, la Clepsydre de Bulide, la Nérée de Timoclès et la Thaïs de Méandre. Thémistocle, Timothée, Demade, Aristophon et Bion étaient des fils de courtisanes. Périclès répudia sa femme légitime pour épouser Aspasie, la belle courtisane de Mégare. Alcibiade, à son retour d'Olympie, exposa un tableau où il était représenté assis sur les genoux de la courtisane Néméa. Mais sous ce rapport, la ville par excellence, c'était Corinthe. Corinthe, qui craignant que les courtisanes ne lui manquassent, faisait acheter des jeunes filles dans toutes les îles de l'archipel et jusqu'en Sicile pour les prostituer lorsqu'elles auraient atteint l'âge de 14 ans. Corinthe, qui se vantait que Vénus, sortant de la mer, avait adressé son premier salut à sa citadelle. Mais aussi les courtisanes étaient-elles reconnaissantes de si grands honneurs. Celles de Corinthe demandèrent à Vénus le salut de leur patrie. Celles d'Athènes suivirent Périclès au siège de Samos. Les Grecs divisaient leurs courtisanes en 4 classes. Nous irons de la plus basse à la plus élevée. La première classe était celle des Antéides, ou joueuses de flûte. Celles-là, c'étaient les bayadères de l'Inde, les aimées d'Égypte, les gitanes de Russie. On les appelait à la fin des repas, on les invitait aux fêtes. La courtisane Lamia, à laquelle Athènes et Thèbes élevèrent chacune un temple sous le nom de Vénus Lamia, avait été d'abord une joueuse de flûte. La deuxième classe était celle des familières. C'étaient les femmes auxquelles un homme s'attachait pour un temps plus ou moins long. Elles correspondaient à nos femmes entretenues. C'étaient des femmes entretenues qu'Herpilis, cette maîtresse d'Aristote dont il eut un fils, nommé Nicomaque, que cette Gnathène, qui avait placé dans son vestibule le code de ses lois en 320 vers, que cette Abrotone, qui fut la mère de Thémistocle, et que cette blanche Nézarète, à qui sa pâleur fit donner le nom de Phrynée. La troisième classe était celle des favorites, c'est-à-dire des maîtresses de rois, de princes, de généraux ou d'hommes célèbres. Milto, Thaïs, Démo et Damasandra étaient les duchesses d'Étampes, les Diane de Poitiers, les Montespan et les Dubarry du temps. La quatrième classe était celle des philosophes. Tels étaient Sappho, Aspasie, Léontium. Nous n'avons d'équivalent à opposer à ces trois femmes célèbres que Ninon de l'Enclos. Il y avait encore les dictériades, ainsi appelées de dictérion, mot synonyme de lupanard. Seulement celles-là, ce n'étaient point à proprement parler des courtisanes, c'étaient des filles publiques. Disons quelques mots de ces dernières. Peut-être est-il curieux, à 1500 ans de distance, d'établir un parallèle entre la fille publique de Paris et la fille publique d'Athènes. Puis nous reviendrons aux autres qui font spécialement le sujet de ce chapitre. La plus grande partie des dictériades étaient esclaves. Elles appartenaient à des maîtres ou à des maîtresses qui trafiquaient de leur beauté et auxquelles, en échange de la nourriture et du logement que ceux-ci leur donnaient, elles rendaient la rétribution qu'elles avaient reçue. Le seul espoir de ces malheureuses était que, par caprice, quelque homme riche les affranchit et les éleva au rang de familières. Il en fut ainsi de Phila, que l'orateur Hyperippe acheta 4 talents et à laquelle il confia le soin de sa maison d'Éleusis. Les dictériades étaient soumises à des lois de police, à peu près pareilles à celles qui régissent nos filles à cartes et nos filles à numéros. Elles devaient être vêtues d'une gaze assez claire pour que leurs robes ne cachassent point leur forme. Elles devaient porter leur nom écrit sur leur front ou tout au moins au-dessus de leur porte. Enfin, un voile devait pendre devant leur seuil chargé d'attributs qui indiquaient la profession exercée par celle qui soulevait le voile. À partir de 7 heures du soir, elle se promenait dans les avenues du céramique. Car il y avait 2 céramiques à Athènes, l'un destiné à la mémoire des guerriers, l'autre au commerce des courtisanes, et sous les arcades du long portique qui donnait sur le Pirée. Dans le jour, plus heureuses que nos prostituées, les dictériades pouvaient demeurer à leurs fenêtres. Elles tenaient alors une branche de myrte qu'elles agitaient entre leurs doigts ou dont elles se caressaient les lèvres, action qui avait le double avantage de maintenir leurs lèvres roses et de montrer l'émail de leurs dents. Quant aux lois sanitaires, elles n'existaient pas, les Grecs ayant le bonheur de ne point connaître l'Amérique. Maintenant, voulez-vous jeter avec moi un coup d'œil sur ces grandes et belles courtisanes qui ont eu tant d'influence sur l'art, sur la politique et sur la civilisation des Grecs la reine de toutes les civilisations. Suivons la progression que nous avons indiquée et prenons dans chacune des quatre catégories susdites ce qu'elles produisirent de plus célèbre. Tout d'abord, dans la classe des Antéides, Lamia. Nous avons dit que Lamia était une joueuse de flûte. Quelques mots sur Lamia. Elle était fille de Cléonore d'Athènes. Enlevée à sa première profession par Ptolémée, roi d'Égypte, elle devint sa maîtresse. Lorsque ce roi fut vaincu par Démétrius Poliorcète, elle tomba au pouvoir du vainqueur, et quoique âgée de près de 40 ans, elle devint sa favorite. Lamia était habituée aux largesses royales. L'or fondait entre ses mains. Son royal amant écrasait les villes de contribution pour satisfaire à ses caprices. On la surnommait l'Hélépole, du nom d'une machine de guerre destinée à ruiner les places. Ses repas étaient si splendides qu'un historien, Lyncé de Samos, ne dédaigna point de nous en transmettre le menu. Les peuples, écrasés de contributions, disaient que Démétrius était possédé par une lamie. Lamie, comme on le sait, veut dire larve, fantôme ou démon. Lamia mourut lorsque Démétrius Poliorcète était au comble de ses prospérités. Aussi, comme nous l'avons dit, Athènes et Thèbes élevèrent-elles un temple à Vénus Lamia. Cherchez dans Diogène Laërte une lettre d'elle à Démétrius. C'est un chef-d'œuvre d'amour et de rouerie. Deuxièmement, dans la catégorie des familières. Les plus célèbres parmi celles-ci furent Abroton, Herphilis, Gnathène et Phrynée. Abroton était née en Thrace. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle fut la mère de Thémistocle. Son fils l'illustra. Aussi, soit reconnaissance, soit inclination, Thémistocle faisait-il sa société des courtisanes les plus célèbres de l'époque. Un jour, il parut sur un char, au milieu de quatre courtisanes, Scione, Lamia, Satyre et Nannion. Les trois premières appartenaient à la classe des familières. La quatrième, qu'on nommait l'avant-scène, attendu que les beautés visibles étaient chez elle un prospectus fort trompeur des beautés cachées, était joueuse de flûte. Herpilis fut, comme nous l'avons dit, la maîtresse d'Aristote. Il en eut un fils nommé Nicomaque, et le testament du précepteur d'Alexandre, rapporté par Diogène Laërte, prouve le cas que le philosophe faisait de la courtisane, à laquelle il laissait un talent d'argent, trois esclaves, et la facilité d'habiter, si elle voulait demeurer à Calice, le logement qui était contigu au jardin. Et si elle préférait Stagira, la maison même qu'avaient habité ses pères. En outre, les exécuteurs testamentaires étaient chargés de faire meubler celui des deux endroits qu'elle préférerait, et si elle se mariait, par hasard, de veiller à ce qu'elle n'épousât pas un homme au-dessous de la condition du testateur, ce qui rendait l'établissement d'Herpilis assez difficile. Aussi, Herpilis, en apparence du moins, resta-t-elle fidèle à Aristote. Gnathène, dont on ignore la naissance et la mort, mais dont il reste quelques mots spirituels, est la Sophie Arnoux de son époque. C'était elle qui avait placé dans son antichambre ce code d'amour dont nous avons parlé. Elle soupait chez Dexité, son ami. On apporta sur la table un très beau poisson, dont Dexité fit aussitôt emporter la meilleure partie. « Que fais-tu donc ?» dit Gnathène. « Je fais porter ce poisson chez ma mère, » répondit Dexité. « Alors, » dit Gnathène, « allons souper chez ta mère. » Une autre fois, c'était à elle de traiter à son tour. Le poète d'Hippile était un de ses convives. Il savourait une coupe d'eau glacée. « Par quel procédé, dit-il, as-tu donc un puits qui donne de l'eau si merveilleusement froide ?»« J'y jette les prologues de tes pièces, » répondit Gnathène. Le mot était plus brutal que spirituel. Mais grâce à lui, nous savons au moins qu'il y avait un auteur dramatique nommé d'Hippile. Phrynée, la courtisane pâle, était de Thespie. Comme Lamia, elle ruina une partie des amants qui la possédèrent. Aussi, outre ces deux noms de Mnésareth et de Phrynée, les uns l'appelaient-ils encore la Cribleuse et les autres Charybde. Phrynée amassa d'immenses trésors. Alexandre venait de détruire Thèbes. Phrynée proposa de la rebâtir à ses frais, pourvu qu'une pierre des murailles portât cette inscription « Thèbes fut abattue par Alexandre et relevée par Phrynée ». La condition parut trop dure aux Thébains, et l'offre de la courtisane fut refusée. Phrynée affectait des apparences pudibondes. Sa tunique montait jusqu'au cou et n'était point fendue sur les côtés. Mais un jour, comme tout le peuple célébrant les fêtes d'Éleusis était rassemblé sur le rivage, elle s'avança jusqu'au bord de la mer, commença par dénouer ses beaux cheveux, qui descendaient jusqu'à ses genoux, puis, laissant tomber l'un après l'autre jusqu'à son dernier vêtement, elle s'avança lentement dans les flots, à cet endroit même où la tradition disait que Vénus avait abordé le jour de sa naissance. Cette scène valut deux chefs-d'œuvre à la Grèce. Apelles et Praxitèle étaient là. Apelles fit sa Vénus sortant des ondes, Praxitèle sa Vénus de Gnide. Praxitèle devint amoureux de son modèle. « Prenez-moi pour amant, dit-il à Phrynée, et je vous donne ma plus belle statue. »« Quelle est votre plus belle statue ? » demanda Phrynée. « Oh, ceci c'est mon secret, répondit Praxitèle. » Trois jours après, Praxitèle était chez Phrynée, un de ses esclaves entre tout effaré. « Maître, dit-il, maître, accourez vite, le feu est à l'atelier !»« Sauvez la statue de l'amour !» s'écrie le statuaire. « C'est bien, dit Phrynée en donnant sa bourse à l'esclave, tu as joué ton rôle à merveille, et je te remercie. » Praxitèle, je choisis la statue de l'amour. Praxitèle s'exécuta de bonne grâce, et le lendemain, le chef-d'œuvre du sculpteur était chez la courtisane, qui en fit don à Thespie, sa ville natale. Corinthe fut moins fière que Thèbes. Elle dut à Phrynée une partie de ses beaux édifices. Un crime, entraînant la peine capitale, amena Phrynée devant le tribunal des Héliastes. Qu'avait fait la belle Thespienne ? Les uns disent qu'elle était accusée de ruiner et de corrompre les Grecs, les autres disent qu'elle avait profané les mystères d'Éleusis. L'orateur Hyperides, son amant, la défendait. Mais toute son éloquence allait échouer devant la rigueur du tribunal, les juges ouvraient la bouche pour prononcer la sentence de mort. Hyperides arrache d'une main le voile de Phrynée et de l'autre sa tunique. Son visage et son sein apparaissent à la fois aux yeux des juges, et Phrynée est absoute, à l'unanimité. Ce ne fut pas le tout. Une fois Phrynée absoute, on lui vota une statue d'or. Une fois la statue fondue, on la plaça dans le temple de Delphes, entre les images de deux rois. L'un de ces deux rois était Archimadas, roi de Lacédémone. L'autre était Philippe, fils d'Amintas. On écrivit sur la base, qui était de marbre pentélique, Phrynée de Thespie, fille d'Épiclès. Laïs était aussi une familière. Laïs, à qui la Vénus noire de Corinthe, Mélanis, était apparue les mains pleines d'or, de perles et de diamants, comme pour lui dire que la fortune l'attendait dans cette ville. Elle raconta son rêve, mais personne ne put l'expliquer. Laïs était sicilienne, née à Icare, près d'Agrigente. Quelle probabilité que Laïs alla jamais à Corinthe ! Nicias se chargea d'accomplir la prédiction. Après avoir pris Agrigente, il prit Icare, réduisit tout le peuple en esclavage, emmena Laïs dans le Péloponnèse et la vendit à je ne sais quelle vieille femme qui en fit sa servante. Un jour, elle allait puiser de l'eau au bord d'une fontaine. Apelles, qui faisait une orgie avec quelques-uns de ses amis, la vit passer, gracieuse et flexible, portant avec un geste plein de grâce une amphore sur son épaule. Il sortit, prit la jeune esclave par la main et l'emmena dans la salle du festin. « Qu'est-ce que cela ? » s'écrièrent les convives. « Une jeune fille timide, modeste, rougissante. Tu es fou, Apelles. C'était une courtisane qu'il fallait nous amener. »« C'est bien, laissez-moi faire, » dit Apelles. Je la formerai et je vous promets qu'elle ira loin. » Cette fois, le peintre était prophète. En effet, 3 ans après, Laïs était la rivale de Phrynée elle-même. Lorsqu'elle allait au temple de Vénus, le peuple la suivait en disant que c'était la déesse elle-même qui était descendue sur la terre. C'était l'époque de la division des écoles et des disputes entre les sectes cyniques, péripatéticiennes, stoïques, épicuriennes. Les chefs de chacune de ces écoles se réunissaient dans le boudoir de Laïs. On vantait un jour devant elle l'austérité des philosophes. « Je ne sais pas, dit-elle, si les philosophes sont plus austères que les autres hommes, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont aussi souvent à ma porte que les autres Athéniens. » Mais Athènes la Molle, reine de Lyonie, n'était pas encore assez voluptueuse pour Laïs. Ce fut Corinthe qu'elle choisit. Ce fut dans cette ville qu'elle mit un tel prix à ses faveurs que l'Antiquité nous a gardé le proverbe auquel elle a donné naissance. « Ne va pas à Corinthe qui veut. » Veut-on savoir quel était ce prix qui effraya Démosthène ? C'était 4 000 francs de notre monnaie. Je n'achète pas si cher un repentir, dit l'illustre orateur en se retirant. Cela prouve que, du temps de Laïs comme du nôtre, les avocats n'étaient pas généreux. 4 000 francs, c'est ce que donne le fils d'un agent de change à une fille de l'opéra. Mais hâtons-nous de le dire à la louange de Laïs, si elle faisait payer cher aux uns, elle donnait gratis aux autres. La belle courtisane usait du droit que se sont arrogés les jolies femmes d'avoir des caprices. Malheureusement, l'histoire qui nous a consacré son avarice à l'endroit de Démosthène a consacré sa libéralité en faveur de Diogène le cynique. Et si Laïs n'entra point dans le tonneau de Diogène, Diogène entra du moins dans le boudoir de Laïs. Cette condescendance encouragea le sculpteur Micon, qui, à 70 ans, était amoureux de la belle Sicilienne. Il se présenta chez elle, mais Laïs les conduisit en le raillant sur son étrange prétention. Micon, qui attribue sa mésaventure à sa barbe et à ses cheveux blancs, teint sa barbe et ses cheveux en noir et se présente le lendemain chez Laïs. « Mon ami, lui dit la courtisane en lui tournant le dos, vous êtes fou de venir solliciter une pareille chose. »« Et pourquoi cela ? Demande Micon. « Parce que je l'ai déjà refusé hier à votre père. » Mais au milieu de cette foule d'adorateurs, un seul homme reste insensible. C'est le philosophe Xénocrate. Un soir, dans un souper, Aristippe et Diogène raillaient Laïs sur le peu de pouvoir de ses charmes. « Je parie triompher de sa froideur, » dit Laïs. Diogène et Aristippe, ses amants, tiennent tous deux le pari. Laïs se lève de table et s'en va, toute courante et toute échevelée, pousser la porte du philosophe. Elle pénètre dans les appartements, criant qu'elle est poursuivie par des assassins, parvient jusqu'à la chambre de Xénocrate, l'aperçoit dans son lit et va se réfugier dans sa ruelle. Xénocrate devine l'intention de Laïs, sourit et se retourne de l'autre côté. Tout ce que le regard a de promesse, tout ce que la parole a d'enivrement, tout ce que le sourire a de provocation, fut mise en œuvre par la séduisante Circé. Mais sourire, parole, regard, tout fut inutile. La voluptueuse sirène, insinuante ou emportée, nymphe ou bacchante, ou serpent ou lionne, épuisa ses enchantements sans obtenir de Xénocrate le moindre retour. Et pourtant 2 heures s'écoulèrent, pendant lesquelles elle resta enlacée à ses bras, côte à côte et dans le même lit que lui. Au bout de 2 heures, Diogène et Aristippe entrèrent. « Paye, Laïs, dirent-ils, tu as perdu. »« Vous vous trompez, dit la courtisane, je ne vous dois rien. J'avais parié animer un homme et non pas une statue. » Comment mourut Laïs ? Les auteurs anciens ne s'accordent point là-dessus. Les uns la font mourir vieille et misérable après avoir dédié son miroir à Vénus, ce miroir qui lui était devenu inutile car elle ne voulait plus s'y voir telle qu'elle était, et elle ne pouvait plus s'y voir telle qu'elle avait été. Les autres la font mourir jeune, et par un excès de plaisir. D'autres prétendent enfin qu'emmenée en Thessalie par un amant pour lequel elle quitta Corinthe, elle fut assassinée dans un temple de Vénus par des femmes jalouses de sa beauté. Tout cela prouve seulement qu'il y eut plusieurs Laïs, comme il y eut plusieurs Hercules et plusieurs Orphées. Les favorites. Thaïs, Philionis, Bacchis, Mytho. Thaïs était athénienne. Elle suivit Alexandre dans son expédition des Indes. Ce fut elle qui, à la suite d'une orgie, excita le vainqueur de Darius à brûler Persépolis. À la mort d'Alexandre, elle tomba en partage à un de ses généraux. Ce général était Ptolémée. Ptolémée hérita de l'Égypte. Il aimait Thaïs et l'épousa. Thaïs se trouva donc reine. Ptolémée en eut 3 enfants, 2 fils, Léontiscus et Lagus, et une fille, nommée Irène, qui épousa Solon, le fortuné roi de Chypre. Philionis était l'esclave de Bacchis, esclave elle-même de Sinope et joueuse de flûte. Sinope était née à Égine. Elle transporta d'Égine à Athènes le dictérion, à la tête duquel elle était. Ce fut chez Sinope qu'Harpalus vit Bacchis, en devint amoureux et l'acheta. Cherchez dans Posidonius et dans Théopompe, et vous verrez toutes les folies que fit pour elle tant qu'elle vécut son riche et généreux amant et lorsqu'elle mourut, il employa 200 talents à lui faire bâtir un monument. Ce monument était sur le chemin d'Athènes à Éleusis et situé juste à l'endroit d'où l'on pouvait découvrir les temples et la citadelle. Mytho naquit en Phocide. Sa mère mourut le jour même de la naissance de son enfant. La jeune Mytho, restée orpheline et pauvre, fut élevée par charité, mais à peine l'enfant put-elle se connaître qu'elle comprit qu'elle était belle, et la beauté, en Grèce surtout, était une fortune. Un accident manqua flétrir cette beauté. Elle avait 9 ans à peine lorsqu'une tumeur se déclare au menton et s'étend bientôt à une partie de la joue. Pauvre et ne pouvant payer les soins d'un médecin, Mytho reste alors sans secours. Le mal fait des progrès. Mytho voit sa beauté menacée. Sa beauté, c'était sa seule espérance, son seul avenir. Pourquoi vivre si elle n'est plus belle ? Mytho se décide à se laisser mourir de faim. Pendant 2 jours et une nuit, la courageuse enfant essaie d'accomplir le projet qu'elle a résolu lorsque tout à coup, au moment où, étendue sur son lit, ses yeux se ferment de lassitude et de besoin, Vénus, sous la protection de laquelle tout enfant elle s'est mise, descend à son chevet et lui montre au pied de son autel des roses desséchées dont elle lui enseigne la propriété. Mytho se lève, court au temple de la déesse, ramasse les roses flétries qu'elle trouve au pied de sa statue, les applique sur son menton et sur sa joue. 3 jours après, la tumeur avait disparu, et Mytho était restée la plus belle des jeunes filles de la Phocide. Ce fut cette même Mytho qui, protégée par Vénus sans doute, devint la favorite de Cyrus. Après la mort de Cyrus, la maîtresse d'Ataxerce, et après la mort d'Ataxerce, prêtresse du soleil à Ecbatane. Philosophe. Léontium, Sappho, Aspasie. On ne sait presque rien de Léontium, si ce n'est qu'elle fut la maîtresse d'Épicure. Une lettre de cette courtisane indique qu'Épicure était déjà vieux lorsqu'il devint amoureux d'elle et que sa jalousie était insupportable à la belle philosophe. Tout le monde connaît Sappho, la lesbienne, Mascula Sappho, comme dit Horace. Les anciens appelaient la fièvre d'amour « fièvre saphique ». C'est de cette fièvre que le jeune Antiochus était atteint lorsqu'il fut guéri par Érasistrate. Sappho a composé 9 livres de poésie lyrique, puis encore des élégies, des iambes, des épithalames et des monodies. 2 pièces seulement sont parvenues jusqu'à nous, l'une conservée par Login, l'autre par Dénis d'Halicarnasse. Ce sont 2 odes. Boileau a traduit l'une d'elles. Tout le monde sait par cœur cette traduction qui, même en passant par la plume de l'auteur de l'art poétique, a conservé une partie de sa fureur amoureuse. Cet ode est adressé à une femme. Sappho était la 10e muse de l'Antiquité et on lui rendit des honneurs royaux et presque divins. Exilée de Mytilène pour avoir pris parti avec le poète Alcée contre le tyran Pittacus, les Mytiléniens gravèrent son image sur leur monnaie. Après son départ de la Sicile, où elle était restée pendant son bannissement, les Siciliens lui élevèrent une statue. Malgré ses instincts tout masculins, Sappho avait épousé un riche habitant de l'île d'Andros. L'histoire a conservé son nom, il s'appelait Cercala. Ce dut être un mari bien heureux. L'histoire aussi a conservé le nom de ses maîtresses les plus aimées. C'était Andromède, Mégare, Cyrne, Mnaïs, Pyrrhine, Gongyle, Anagore, Sindo, Eumia, Attis, Anactori et Télécile. Malheureusement, comme le dirent les poètes, l'amour outragé devait se venger un jour ou l'autre. L'amour poussa Phaon vers Lesbos. Phaon était un beau pêcheur. Un jour qu'il s'apprêtait à passer de l'une à l'autre de ces charmantes îles de l'archipel qui s'élèvent au-dessus des dodes de la mer Ionienne comme des corbeilles de roses, une jeune fille voilée vint lui demander le passage. Phaon la fait asseoir, guide la barque et aborde heureusement au but qui s'était promis. Alors la jeune fille se dévoile. Phaon, ébloui, tombe à genoux. La belle passagère était Vénus elle-même. Or, comme toute peine mérite salaire, Vénus donna à Phaon un vase rempli d'une essence divine. Cette essence avait la propriété de faire aimer celui qui s'en était servi une fois seulement. Le beau Phaon se frotta d'essence, et pour faire l'essai de son pouvoir, descendit à Lesbos. Vénus était la déesse la plus puissante de l'Antiquité. Les lesbiennes aimèrent Phaon. Et parmi les lesbiennes, Sappho l'aima plus que tout autre. On sait la mort de la pauvre muse, mort qui rachète sa vie. Sappho est la Madeleine grecque. Maintenant, deux mots sur Aspasie, et nous aurons accompli le cercle des grandes courtisanes antiques. Aspasie naquit à Milet, patrie des fables et des courtisanes. Son père, la voyant si belle, l'histoire ne dit pas à quelle secte philosophique le père d'Aspasie appartenait, son père, donc, la voyant si belle, comprit que les dieux n'avaient pas formé une telle merveille pour le bonheur d'un homme, mais pour les plaisirs de l'humanité. Aspasie reçut, en conséquence, une éducation en harmonie avec la mission qu'elle devait accomplir. Athènes, à cette époque, était le foyer de l'intelligence universelle. C'était l'époque de la gloire militaire et artistique d'Athènes. Aspasie vint à Athènes et y ouvrit une école qui rendit bientôt déserte celle du vieux Socrate. C'était une école d'amour. Les plus belles filles de la Grèce y recevaient des leçons sur l'art d'aimer et de se faire aimer. Périclès et Alcibiade devinrent les auditeurs les plus assidus de ces cours merveilleux. Périclès était le chef de la République. Périclès était amoureux d'Aspasie. Vers ce temps, deux jeunes mégariens enlevèrent de force deux courtisanes attachées à la belle Milésienne. Aspasie exigea que Périclès réclamât de Mégare les deux courtisanes enlevées, et comme Mégare ne voulut pas les rendre, Athènes fit la guerre à Mégare. Périclès était devenu fou d'Aspasie, il ne pouvait quitter sa maîtresse. Il fallut faire la guerre à Samos. Aspasie et ses courtisanes s'embarquèrent avec Périclès et allèrent faire avec lui le siège de Samos. Un seul désir restait à Aspasie, c'était d'épouser Périclès. Mais Périclès était marié. Périclès répudia sa femme et épousa Aspasie. Tout cela faisait beaucoup rire la Grèce. Les sages attaquaient Périclès, les comédiens raillaient Périclès, les journaux du temps disaient pis que pendre de Périclès. Mais tout en attaquant sa conduite privée, il perdait de vue sa conduite publique. Tout doucement, Périclès s'emparait de la République comme Aspasie s'était emparé de Périclès. Périclès mourut. Aspasie, qui avait su devenir la femme de Périclès, ne sut pas être sa veuve. Elle épousa un gros marchand de bestiaux, un Lysiclès, je crois, espèce de Turcaret, qui s'était enrichi dans les guerres de Mégare et de Samos en fournissant les vivres de l'expédition. Et cependant, tel était le crédit d'Aspasie qu'elle éleva son nouvel époux jusqu'à une des plus hautes magistratures de la République. Enfin, pour ajouter un dernier rayon à la gloire de la maîtresse d'Alcibiade, de la veuve de Périclès et de l'épouse de Lysiclès, Cyrus le Jeune, voulant donner à sa maîtresse Mytho un nom qui rappela toutes les perfections, changea son nom de Mytho en celui d'Aspasie. Voilà ce qu'étaient les courtisanes chez les Grecs. Mêlées à la religion, à l'art, à la politique, elles font parler les dieux, elles inspirent Phidias et Praxitèle, elles conseillent Périclès. D'où vient que cette influence se perd chez les Romains? Un court parallèle entre les deux peuples donnera l'explication de cette différence dans la position sociale des courtisanes à Athènes et à Rome. Bien entendu que nous nommons ces deux villes-là, l'une comme le centre de la civilisation grecque, l'autre comme le centre de la civilisation italienne. Les Grecs, ces types les plus beaux de la plus belle race, c'est-à-dire de la race caucasique, aimaient le beau par-dessus toute chose, doués qu'ils étaient par la nature d'une organisation fine, élégante, supérieure, essentiellement apte à recevoir toutes les nuances de la beauté. Aussi les Grecs avaient-ils en quelque sorte établi la beauté sur des règles mathématiques. Voyez leur Jupiter olympien, leur Junon, leur Vénus. C'étaient des types arrêtés, convenus, calculés entre les statuaires et les peintres. Vous reconnaissez leurs dieux à la première vue, impossible de confondre Apollon avec Bacchus ou Castor avec Mercure. C'est qu'ils avaient en quelque sorte établi une échelle de beauté qui montait de la terre au ciel et redescendait du ciel à la terre. Ainsi, Télèphe était le type de l'enfant, Ganymède le type de l'adolescent, Paris le type de l'homme, Castor et Pollux les types du demi-dieu, Mercure, le type du dieu inférieur, Apollon, le type du dieu supérieur, Jupiter, le type du grand dieu. Puis, après être montée au ciel par les hommes et les dieux, cette échelle redescendait vers la terre par les déesses et les femmes. Vénus était l'anneau qui scellait une des extrémités de cette chaîne au ciel. Hélène était l'anneau qui scellait l'autre extrémité de cette chaîne à la terre. L'intervalle était rempli par Isis, la messagère, par Nérée, la reine des flots bleus, par Calypso, la nymphe des forêts. Il ne faut donc pas s'étonner de la toute-puissance de la beauté chez un pareil peuple. Mais les Romains étaient bien loin de ressembler aux Grecs. Ils leur avaient pris, il est vrai, leur littérature, leurs lois, leur civilisation. Mais ils n'avaient pas pu prendre le génie grec enchaîné avec Prométhée au sommet du mont Autrice. Les Romains, peuple de laboureurs, peuple grossier, sans imagination, n'ont jamais eu un véritable amour de l'art. Un beau matin, le caprice du beau leur prit, il est vrai. Mais alors, comme ils commençaient à être riches, ils trouvèrent qu'il était bien plus simple d'envoyer chercher le beau à Athènes, à Corinthe et à Delphes, et de l'acheter tout fait, que de l'inventer eux-mêmes. Il en fut de même des courtisanes. Quand les Romains, pour se mettre à la mode grecque, voulurent eux aussi avoir des courtisanes, ils en firent acheter. Aussi les Romains, maîtres en débauche, étaient-ils fort ignorants en volupté. Cherchons quelques grandes courtisanes romaines à opposer aux 10 courtisanes grecques dont nous avons esquissé l'histoire. Nous n'en trouverons pas. Cynthi, Délie, Lesbie, Corinne étaient des courtisanes, il est vrai. Mais que savons-nous d'elles ? Leurs noms consacrés par les plaintes de Properce, de Tibulle, de Catulle et d'Ovide. À quels grands événements se sont-elles mêlées ? On l'ignore. Il y avait aussi une Lysisca, mais que sait-on d'elle ? Que Messaline prenait son nom et sa perruque blonde pour courir les lupanards et les corps de garde. Non, la vraie courtisane, chez les Romains, c'est la fille des empereurs, c'est la mère des empereurs, c'est la femme des empereurs. La vraie courtisane, c'est Livie, qui, couchée au pied de la statue de Priape, se faisait heurter un soir, elle et son amant, par les porteurs de la litière d'Auguste. La vraie courtisane, c'est Messaline, qui rapportait jusque sur l'oreiller de Claude l'odeur des lieux infâmes qu'elle venait de hanter. La vraie courtisane, c'est Agrippine, qui, prévoyant sa mort parricide, fit, au dire de Suétone, de si étranges et si publiques tentatives pour devenir la maîtresse de son fils. Puis au meurtre de Caligula, aux folies de Néron, aux débauches d'Elagabale, succédèrent bientôt les ascétiques commencements d'une ère nouvelle. Le Christ, armé du fouet, avait chassé les vendeurs du temple. Les apôtres, armés de sa parole, chassaient la débauche de la société. Pendant plusieurs siècles, la courtisane s'est réfugiée en Orient, où on la perd presque de vue à Carthage, à Alexandrie, à Byzance. Puis, chose bizarre, elle reparaît au Moyen-Âge. Où cela ? À la cour des papes. Voyez l'histoire d'Olympia. Est-ce une courtisane que cette blonde Lucrèce, qui, maîtresse de ses deux frères, complice de la mort de son troisième mari, s'en va, toute sanglante, présider la cour de Ferrare, et distribuer les couronnes de la poésie et les sourires de l'amour à l'Arioste et à Bembo. Au reste, regardez du côté de l'Orient. C'est de là que la courtisane va revenir avec les arts et la science, chassée de Constantinople par Mahomet II. Florence se proclama l'Athènes moderne. Laurent de Médicis est le Platon de cette nouvelle académie. Les peintures grecques reparaissent le long des murailles dont elles chassent les peintures chrétiennes. Bianca Capello fuit nuitamment Venise avec son amant, Bonaventuri, et monte sur le trône de Toscane avec le fils de Côme le Grand. À la suite des idées grecques, la courtisane est rentrée dans la société chrétienne. François Ier, le roi très chrétien, passe sa vie tiraillé entre Madame d'Étampes et Diane de Poitiers. Après quoi, il meurt d'une maladie que l'avocat Ferron va chercher dans un loupénard de la rue du Pélican, léguant à Henri II avec le trône de France, Diane de Poitiers, son ancienne maîtresse. Puis, pour qu'aucun vice de l'ancienne grecque ne soit étranger à la société moderne qui se corrompt, vient Henri III, entouré de ses favoris, et la race des Valois s'éteint dans des amours antiphysiques et dans des embrassements monstrueux. C'est alors qu'apparaît Henri IV, entre Madame de Verneuil et Gabrielle d'Estrée, comme François Ier entre Diane de Poitiers et Madame d'Étampes. C'est qu'une nouvelle société se forme sur laquelle la femme va prendre une énorme influence. À la langue de Rabelais, langue inintelligible à force de science, succède la langue de Montaigne, dont Corneille et Molière feront la plus belle, tandis que Racine en fera la plus douce, langue du monde. Des femmes rentrent donc par tous les points dans la société dont on les a exilées. La duchesse de Chevreuse et Madame de Longueville mènent la fronde. Marion de Lorme conspire avec Cinq-Mars contre le cardinal de Richelieu, ou plutôt encore, sert d'espion au cardinal de Richelieu contre Cinq-Mars. Mademoiselle Paulet et Mademoiselle de Scudéry fondent l'hôtel de Rambouillet. Madame de Sévigné écrit des lettres qui resteront des modèles. Deux grandes figures de courtisanes nous apparaissent, l'une s'appuyant sur le XVIIe siècle, l'autre penchée sur le XVIIIe. Ces deux figures sont celles de Marion de Lorme et de Ninon de l'Enclos. Que vous dirais-je de Marion de Lorme, dont la vie est si brillante et dont la naissance et la mort sont si obscures? Est-elle née en Franche-Comté, comme disent les uns, vers la fin de l'année 1606? Est-elle née à Châlons-en-Champagne, comme disent les autres, vers la fin de l'année 1612 ou 1615? Est-elle morte en 1650, à l'âge de 35 ans? Est-elle morte en 1741, c'est-à-dire à 134 ans? A-t-elle vu célibataire passer son convoi? A-t-elle répété ces vers que l'on fit sur elle lorsque le bruit de sa mort se répandit? La pauvre Marion de Lorme, de si rare et plaisante forme, a laissé descendre au tombeau son corps si charmant et si beau. Ou bien n'est-elle descendue dans ce tombeau, restée près de 100 ans vide et béant pour l'attendre, qu'après avoir successivement écrasé un lord, un chef de bandit et un procureur? Cela, c'est ce que je ne sais point. C'est ce que les contemporains n'ont pas su, c'est ce que personne ne sait encore. Mais ce que personne n'ignore, c'est qu'elle fut tour à tour la maîtresse de Cinq-Mars, de Richelieu, de Bassompierre, de Desbarreaux, de Démery, du chevalier de Gramont, du duc de Brissac et de Saint-Évremont. Laïs n'avait pas fait mieux dans l'Antiquité. Passons à Aspasie. Ninon de l'Enclos, moins la guerre de Mégare, est l'Aspasie moderne. Philosophe, comme Aspasie, elle fut élevée par un père philosophe. Seulement, le père et la fille appartenaient à deux sectes différentes. Le père était épicurien, la fille était sceptique. Il y avait un étrange débat dans la famille. La mère, bonne et pieuse femme, voulait faire de Ninon une religieuse. Le père, homme de plaisir, voulait en faire une courtisane. Ninon eut donc à peu près son libre arbitre. Son tempérament l'emporta vers le plaisir. À 15 ans, Ninon ouvrit à Paris une école à peu près pareille à celle qu'au même âge ouvrit Aspasie à Athènes. Le jeune Sévigné fut son Alcibiade, le grand Condé fut son Périclès, La Rochefoucauld fut son Socrate. Puis vous savez les noms de ses autres amants. Séligny, Villarceau, D'Albret, D'Estrée, Défiat, Jersey, Clérambeau, Remny, Gourville, et le confiant Lachâtre, qui dormait tranquille sur son billet. Puis, de ses amants, passons à ses amis. La Bruyère lut chez elle ses caractères. Molière, son Tartuffe. Voltaire, ses premières poésies. Quand Christine, la reine philosophe, vint à Paris, elle voulut voir cette courtisane que les plus grandes dames et les plus grands seigneurs de l'époque appelaient leur chère Ninon. Et la reine Christine, en quittant Paris, déclara qu'elle n'avait rien vu de plus charmant qu'elle. Et cependant, à la fin de sa vie, cette Ninon si heureuse, si brillante, si vantée, cette Ninon qui, à 80 ans, avait voulu avoir le dernier mot de l'amour avec le frais et le galant abbé de Châteauneuf, à la fin de sa vie, cette Ninon disait « Qui m'eût proposé une pareille existence et je me serais pendu ?» Mais Ninon s'aperçut trop tard du vide de cette existence, en apparence si remplie. Elle ne se pendit pas et fit bien car elle mourut de vieillesse à 92 ans. À la courtisane politique, Marion de Lorme, à la courtisane couronnée, Madame de Montespan, À la courtisane philosophe, Ninon de l'Enclos, succédèrent les Camargo, les Sophie Arnoux. C'était déjà de la décadence. Il y avait peut-être plus d'esprit, il y avait moins de haute manière. L'aristocratie succédait à la grande seigneurie, le règne des filles d'opéra commençait. À part son nom, il reste peu de souvenirs de la Camargo. Elle fut un instant à la mode, voilà tout ce qu'on en sait. Quant à Sophie Arnoux, elle a laissé la réputation d'une des femmes d'esprit de ce siècle où l'esprit courait les rues. Tout le monde connaît ses adorables réparties. Malheureusement, celles qui sont le moins connues ne peuvent pas s'écrire. Puis vint la Révolution, époque pendant laquelle on s'occupa peu de plaisir et d'amour. Non pas que nos septembriseurs et nos guillotineurs fussent ennemis des femmes. Danton les aimait fort, et Marat, tout hideux qu'il était, ne les méprisait point. Mais ces messieurs étaient de tristes amants. Comme ils avaient en général la prétention d'être incorruptibles, ils payaient assez mal les plaisirs qu'on leur laissait prendre, plutôt par crainte que par sympathie. Mademoiselle C. de la Comédie-Française avait le malheur de se trouver dans ce cas. Elle avait cédé à un terroriste fameux qui avait oublié de reconnaître ses bontés autrement que par le don de sa propre personne. Ce qui paraissait assez médiocre à l'actrice que ses relations antérieures avec l'aristocratie déchue avaient habitué à de meilleures façons. Cependant, un jour que l'échafaud avait donné, sans doute, comme elle s'aperçut que le visage de son amant était un peu moins sombre que d'habitude, elle profita de cette éclaircie faciale pour risquer une demande. « Citoyen, dit-elle, c'est demain le jour de ma fête. Que me donneras-tu pour ma fête ?»« Je te donnerai la vie, répondit le généreux tribun. Mais après les Saint-Just, les Robespierre et les Marat, vinrent les Talliens, les Barras, les Sieyès. Après la Terreur, le Directoire. 93 avait voulu imiter Rome. 98 voulut imiter Athènes. La courtisane reparut. Il faut même le dire, le Directoire fut l'âge d'or de la courtisane. L'Empire, tout brillant qu'il était, ne fut que son âge d'argent. Ouvrez les yeux et les oreilles, nous allons raconter des choses fabuleuses. Nous avons tous entendu raconter par nos pères, n'est-ce pas, tandis que nos mères rougissaient, ces grandes orgies du Directoire. C'était une époque qui ne ressemblait à aucune autre, si ce n'est peut-être à celle de la Régence. On était si heureux d'avoir échappé aux tueries du 10 août, au massacre des 2 et 3 septembre, à la guillotine de 93 et de 94, que chacun semblait atteint de folie. On était pressé de vivre, et surtout, on éprouvait le besoin de se sentir vivre. L'argent, si longtemps enfoui, converti en papier ou exilé, reparaissait à la surface du sol, comme si toute cette riche terre de France n'était qu'une mine d'or. Les maisons de jeu, les restaurants, les coulisses des théâtres regorgeaient de gourmands, de joueurs et de libertins. Pareils à ces matelots qui mettent pied à terre à Brest, à Lorient ou au Havre, après des traversées de 5 ou 6 mois, et qui mangent en 3 jours leur paye d'une année, il y avait des généraux qui venaient pendant un congé d'une semaine manger à Paris leur butin de toute une campagne, et qui profitaient surtout de ce besoin de plaisir et de cette recrudescence d'or. C'étaient les courtisanes. Laissons parler notre ami Nestor Roqueplan, le célèbre archiviste de l'opéra, à qui nous avons demandé des renseignements sur chacun des 3 sujets que nous venons de traiter, et qui a bien voulu nous communiquer la note suivante, fruit de ses longues et savantes investigations, dans les coulisses du théâtre de la rue Lepelletier. Or, en ce temps-là, c'est Nestor Roqueplan qui parle, florissait la célèbre Clotte. C'était une danseuse grande, belle, au visage grave et voluptueux, à la taille aussi souple qu'une branche de saule. On disait alors que Mademoiselle Georges était une belle statue, et Clotte, 3 points de suspension, une belle créature. Ses cheveux, blonds et purs comme l'or, couronnaient un front mat au-dessous duquel s'enchâssaient 2 yeux de saphir. Sa tête se balançait comme une aigrette, sur un cou long, élégant et fier. Les amateurs du temps parlent encore les larmes aux yeux, mais de ces larmes qui atteste le regret d'une belle sensation perdue, d'un certain mouvement de hanche indescriptible qui donnait à tout le corps de Clot un frémissement d'ineffable volupté. Quand elle levait les bras et se penchait pour commencer une pirouette, quand cette élévation des bras laissait voir librement tout le dessin du corsage et que l'inclinaison du corps faisait saillir la hanche de cette délicieuse femme, il paraît que c'était un tableau à se brider la cervelle. On ne dit pourtant pas que personne lui ait fait le sacrifice de sa vie, mais on cite plusieurs individus qui lui offrirent de plus utiles holocaustes et qui gaspillèrent des millions pour avoir le droit de l'aimer. Le plus brillant, le plus noble de ses adorateurs fut le prince Pignatelli, comte d'Egmont, espagnol, porteur d'un grand nom, possesseur d'une immense fortune et doué des plus beaux instincts d'élégance. Ce fut lui qui fit venir de Londres la première berline à ressorts anglais. Cette voiture basse, commode et remarquable par sa coupe, fit dans le temps une grande impression. Ce fut lui encore qui, au grand bal donné par les maréchaux, se présenta dans trois toilettes différentes, dont la richesse défraya les conversations de toute une semaine. Dans le cours de ces galantes prodigalités, le prince Pignatelli devait rencontrer la belle et dépensière Clot. Il lui créa un état de maison éblouissant, lui fit un revenu annuel de 1 200 000 francs, lui donna les plus riches équipages pour Longchamp, dans un temps où Longchamp était quelque chose. Mais Clot avait le cœur si bon, l'âme si charitable, il lui arrivait si souvent par paresse, par générosité, de donner à son cordonnier 1 000 francs d'une paire de souliers pour n'avoir pas à changer un billet. Elle était si compatissante aux misères de la populace théâtrale, des comparses, des figurantes, des choristes, que les magnificences du prince Pignatelli ne suffisaient pas à tant de besoins honorables. L'amiral espagnol Mazaredo vint aider Clot dans ses charités et augmenta de 400 000 ou 500 000 francs son modeste revenu. À ces nouvelles largesses de Mazaredo s'ajoutèrent bientôt les petites galanteries de Monsieur Pu, 3 points de suspension, qui venait s'asseoir, seulement à côté d'elle, 3 heures pendant son dîner. Cette espèce de commensalité inactive ne se payait pas moins de 100 000 francs par an. Total, 1 600 000 ou 1 700 000 francs. Pauvre danseuse d'aujourd'hui, lisez cette insolente addition et dites avec douleur « La danse est perdue ». On cite de Clot des particularités de luxe vraiment surprenantes. Elle habitait, rue Ménard, un appartement qu'avait occupé Mademoiselle Bourgoin de la Comédie-Française. À cette époque, Paris était grec. On décorait les maisons comme le palais d'Agamemnon. Les tentures à la grecque de l'appartement de Clot étaient en drap de Sedan, à 70 francs l'aune. Son lit, bas et nécessairement aussi de forme grecque, avait coûté 9 000 francs. Le couvre-pied n'était autre chose qu'un cachemire noir de 15 000 francs. L'estrade de ce lit était recouverte d'un autre cachemire d'une valeur énorme. Enfin, le tapis perse de la chambre ne coûtait pas moins de 6 000 francs. Les bronzes, les statues volées à l'Italie, se heurtaient dans ce gynécée et composaient les menus accessoires d'un mobilier inestimable. Hélas, la pauvre Clot n'en était pas moins crucifiée, au milieu de son luxe sadarnapalien, par une étrange préoccupation. La nature qui s'était épuisée à réunir tant de perfections avait laissé, dit-on, une tache dans ce bel ensemble. Clot eût été une demi-déesse si elle avait posé immobile sur un piédestal d'agate ou de malachite. Mais il fallait danser, et la malheureuse bayadère ne pouvait se dissimuler que l'ébranlement causé par cet exercice diabolique portait un trouble notable dans l'économie de ses émanations corporelles. Henri IV, dans sa rudesse béarnaise, se serait servi, comme il le fit jadis, de l'expression propre pour qualifier cet inconvénient. Plus poli, les gens de l'opéra se disaient tout bas que Clot laissait après elle la trace d'un parfum mal corrigé par le musc dont elle faisait abus. Que dire, après cela, des courtisanes antiques ou des courtisanes de nos jours? Qu'était Laïs que Démosthène refusait de posséder pour 5 000 francs? Ou Madame X, qui disait à un amant d'une nuit qui lui avait donné 1 000 écus et qui demandait à revenir le lendemain « Vous êtes donc bien riche !» Près de la prodigue Clotilde, à qui 2 millions de rentes ne suffisaient pas pour ses capricieuses fantaisies et qui trouvait encore moyen, avec ce revenu royal, de faire 500 000 francs de dettes.